Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
À quelques jours du deuxième tour des élections législatives en France, il est temps de faire un point et d'analyser un peu ce qui se passe et ce qui risque de se passer d'ici à ce week-end avec Nathanaël Bloch. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Christophe.
Alors, une grosse semaine, cette semaine, avec un objectif en vue, dimanche, les élections législatives. Certains diront ouf, ça sera la dernière fois qu'on votera pendant un petit moment. Mais il y a quand même un enjeu énorme avec La République En Marche qui pourrait prendre une majorité incontestable.
Alors vous avez tout à fait raison, Christophe. J'allais dire, la faible incertitude qu'on a pour ce second tour des législatives, c'est le succès relatif et annoncé de La République En Marche.
Alors là, juste, je vais faire l'avocat du diable. On s'est trompé sur tous les pronostics, sur beaucoup de pronostics jusqu'ici. Est-ce qu'on a vraiment une certitude que ça va vraiment plutôt passer de ce côté-là?
Alors, j'ai deux éléments de réponse à vous fournir, Christophe. D'abord, en termes de dynamique électorale, effectivement, on disait Macron, il n'arrivera jamais à avoir un mouvement. Ensuite, on disait Emmanuel Macron... C'est une bulle. Il ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle. Il l'a fait. Il ne pourra pas gagner la présidentielle. Puis, il ne sera pas crédible sur la scène internationale. Et on a vu ce qui s'est passé avec Poutine et Trump. Et puis enfin, il n'arrivera pas à avoir un bon score au premier tour. Surtout, il ne sera pas en tête à l'issue du premier tour des législatives. Donc, clairement, on est sur une dynamique plus que positive. Là, on n'est plus tellement à se poser la question de savoir si La République En Marche va remporter ces élections législatives, mais à combien de sièges sera la majorité absolue d'Emmanuel Macron. Donc ça, c'est le premier élément, c'est en termes de dynamique.
Et ça, on l'entend dans le discours des politiques. Quelqu'un comme Baroin, par exemple, ne parle pas de victoire dans cette élection législative. Il parle de limiter la défaite, limiter la casse et de ne pas laisser les pleins pouvoirs, justement, au clan Macron.
Alors, c'est un petit peu aussi un faux débat ou un mauvais argument, parce que les pleins pouvoirs, c'est quoi? Les pleins pouvoirs, c'est une projection d'un nombre de députés à 440 ou 470, comme c'est le cas pour la République En Marche pour ces élections législatives. Est-ce que c'est 345 députés comme l'avaient eu les Républicains en 2007? Est-ce que c'est 284 comme l'avait eu François Hollande et son Assemblée en 2012? Donc, d'une certaine façon, c'est une fois qu'on a la majorité absolue et qu'on est capable de gouverner à l'Assemblée, c'est à combien on fixe les limites. Donc,
c'est aussi en oubliant qu'il y a le Sénat, qu'il y a les régions, qu'il y a les communes qui, elles, ne sont pas passées sur La République En Marche.
Alors, il y a un groupe de parlementaires au Sénat qui,
qui va
se réunir sous la bannière La République En Marche. Donc, le vert, d'une certaine façon, pour François Baroin, le vert est déjà dans le fruit. C'est pour ça qu'il parle de limiter la casse à l'Assemblée nationale. Mais pour revenir à votre première question, en plus de la dynamique électorale, il y a aussi l'arithmétique. On en revient toujours à l'arithmétique. C'est que cette année, en fait, on a une seule triangulaire, donc beaucoup moins d'incertitudes. Parce que quand on a une triangulaire et qu'un candidat dit, à l'époque du Front Républicain, ne se désistait pas, finalement, quid de la personne de droite, de gauche ou du Front National, puisque c'est souvent le cas avec le Front National, aller remporter ce siège-là.
On l'avait vu d'ailleurs pour Maître Collard.
On l'a vu exactement pour Maître Collard. Là, on a une seule triangulaire contre 34 en 2012. Donc, d'une certaine façon, les autres matchs sont déjà joués. Donc,
est-ce qu'on peut dire que, même en analysant ça, on voit qu'il y a eu un séisme politique? Le fait même qu'il n'y ait pas un grand nombre de triangulaires, ça veut dire qu'il y a eu un vrai séisme politique, en fait.
Il y a eu un double séisme politique. Il y a eu le séisme politique de la vague, du raz-de-marée de La République En Marche, et il y a eu le séisme politique de la forte abstention aussi, qui a fait,
absolument,
je le rappelle, pour les triangulaires, il faut obtenir non seulement un pourcentage de 12,5, mais en plus avoir un certain nombre des personnes inscrites pour pouvoir participer à un second tour des élections législatives. C'est pour ça qu'en fait on a eu peu de triangulaires à cette élection, parce qu'on a eu un taux d'abstention extrêmement important de 51,2%. Pour revenir sur cette circonscription, elle est d'ailleurs, c'est la seule donc qui est en triangulaire, la première circonscription de l'Aube, mais elle est assez significative et elle est assez parlante du séisme électoral actuel, parce qu'à droite on trouve Nicolas Duic. C'est un parlementaire de droite qui est assez controversé, puisqu'il avait à l'époque fait une allusion pas forcément heureuse entre le terrorisme et le mariage pour tous. Donc c'est quelqu'un plutôt de la droite.
Droite
dure. Mmh. On a un Républicain En Marche qui est arrivé en tête, dans une circonscription quand même à droite, donc c'est aussi assez significatif, qu'on accuse de parachutage, qui est un ancien encarté UMP, Donc on voit aussi le vrai séisme, c'est-à-dire c'est d'être capable d'arriver en tête dans une circonscription où il y a un député de droite, d'arriver en tête avec l'étiquette La République En Marche en étant soi-même anciennement encarté à droite. Et puis, on a un PS éliminé, encore une fois, assez significatif de ces élections-là, puisque le PS a fait un score de 9,51% et est arrivé en quatrième position à l'échelle nationale. Et puis, on a un Front National qui sera dans cette triangulaire. Et, dernier élément assez représentatif de ces élections-là, une France Insoumise, un candidat de l'extrême-gauche, qui a appelé à faire barrage au Front National, mais donc qui a un vrai poids et qui va peser sur cette prochaine mandature, comme le groupe de Jean-Luc Mélenchon va certainement peser sur cette prochaine mandature, puisqu'il vise à avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, je le rappelle, 15 députés. Donc 15. Cette circonscription, c'est la seule qui est en triangulaire, mais elle réunit, je trouve, et c'est assez intéressant, beaucoup d'éléments significatifs de ces élections-là.
Un enseignement aussi, c'est la baisse, en tout cas le non-succès du Front National. On attendait à un raz-de-marée bleu-marine qui ne s'est pas du tout avéré. Et du coup, on ne sait même pas, enfin, il n'y aura probablement pas un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, chose dont le Front National rêvait avant ces élections.
Alors météorologiquement, c'est assez normal. Le raz-de-marée était plus important que la vague bleu-marine. Marine Le Pen l'a dit dans une conférence de presse, dans une allocution qui a suivi le premier tour. Elle l'explique par le faible nombre de triangulaires qui d'habitude profitent justement au Front National parce que y a une sorte de... et la droite et la gauche se mangent mutuellement des voix, ce qui permet lui au Front National de monter et d'espérer obtenir des sièges. Et là, Marine Le Pen le dit clairement, voilà, de par le faible nombre de triangulaires, une seule, la tâche sera plus difficile pour le Front National.
Mais ça traduit bien le coup de mou que le Front National a eu après l'élection présidentielle. On l'a vu, Marine Le Pen a se posé même la question, est-ce qu'elle allait se présenter à Hénin Bonbon ou pas? Est-ce qu'elle allait se lancer dans cette campagne législative ou pas? Elle a eu ce coup de mou après, on peut pas le nier ça.
Ah oui, non, mais clairement, elle a eu ce coup de mou. Il y a toujours ce problème au Front National de séparer la personne, la famille Le Pen, en l'occurrence Marine Le Pen, et le parti. Et on l'a vu pendant ces élections législatives, on a encore eu quelques dérapages de la part de candidats Front National. Donc il y a quand même toujours on avait parlé la dernière fois, cette entreprise de dédiabolisation sur laquelle le Front National va encore devoir travailler pour espérer constituer un groupe cohérent à l'Assemblée nationale. Il y a un score à l'échelle nationale qui est aussi, je trouve, assez intéressant, Christophe, c'est que sur l'ensemble du territoire, seuls 19 candidats La République En Marche ne se sont pas qualifiés pour le second tour.
Et ils ont dit on ne peut pas gagner partout.
Alors non seulement
ils
ne peuvent pas gagner partout, mais surtout, en plus, je vais un peu plus loin. Déjà, c'est un chiffre qui est absolument incroyable, mais sur les 19, il y en a 10 candidats donc, qui ne sont pas qualifiés pour le second tour, qui se trouvaient soit en Corse, soit dans les territoires d'outre-mer, où on sait évidemment que l'ancrage local revêt une importance un peu plus grande que dans le reste du territoire. Donc en fait, en France métropolitaine hors Corse, seuls 9 candidats à La République En Marche ne se sont pas qualifiés pour le second tour. Donc ça aussi, c'est quand même assez significatif. Ils n'auront évidemment pas une majorité totale ou quasi totale, mais très peu de candidats, en fait, La République En Marche, étiquetés Emmanuel Macron compatible La République En Marche, ne sont pas qualifiés pour le second tour.
EM Inside, EM Compagnie. Le Parti Socialiste, il faut en parler.
Bien sûr.
Implosion, explosion, comme on veut, mais en tout cas, ils ne sont pas là au deuxième tour, quasiment. Très peu présents sur ce deuxième tour. L'avenir du Parti Socialiste, il est où? On entend des voix à gauche qui disent « on n'a pas su parler, on n'a pas fait assez de gauche, on n'a pas été assez à gauche ». Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de se mettre le doigt dans l'œil quand on voit que la majorité des Français ont voté pour un ancien du gouvernement Hollande qui, lui, n'a pas fait plus de gauche? Et eux, dans le Parti Socialiste, on se dit « l'erreur, c'est de ne pas avoir été assez à gauche ». On ne se met pas un peu le doigt dans l'œil, là, quand même, ou pas?
Alors, autant, Christophe, on avait une faible incertitude sur le succès à venir de La République En Marche, autant on a une très forte incertitude sur les autres partis politiques et, vous l'avez dit, sur le Parti Socialiste. Clairement, le premier tour des législatives a surtout été un carnage pour la gauche et pour le Parti Socialiste.
Mais est-ce qu'on peut dire que c'est la France Insoumise qui a tué le Parti Socialiste ou pas? C'est plutôt La République En Marche. Donc, si c'est La République En Marche qui a tué le Parti Socialiste, ce que les gens attendaient, c'était une réponse d'une politique comme La République En Marche, pas forcément comme la France Insoumise.
Pour répondre à votre question, déjà, il y avait un effet d'étiquette, et on le voit bien. Les candidats socialistes, je pense à Stéphane Le Foll, je pense à Marisol Touraine, à qui on n'a pas opposé de candidature en marche en phase 2, se sont qualifiés pour le second tour. Ce qui veut dire clairement que leur bilan, sans préjuger du bilan des autres, mais en tout cas, ils ont le même bilan gouvernemental que d'autres candidats qui ont appartenu à ce gouvernement ou à l'exécutif du Parti Socialiste. Et pourtant, ils sont qualifiés pour le second tour. contrairement à, je ne vais pas faire ici la litanie nécrologique des différents éléphants qu'on reverra plus dans la mare, mais clairement, il y a surtout aussi cet effet d'étiquette. Et c'est La République En Marche qui a siphonné les voix du Parti Socialiste et qui ne permet pas un avenir serein au Parti Socialiste, plutôt que la France Insoumise qui reste, elle, sur la belle lancée qu'elle avait eue au premier tour, enfin à l'élection présidentielle. Donc véritablement, non, c'est la République En Marche, et on le voit même en nombre de duels, c'est-à-dire qu'on a à peine 61 duels La République En Marche, Parti Socialiste au second tour des législatives, alors qu'on en a 261 La République En Marche, Les Républicains / UDI. Donc véritablement, c'est La République En Marche qui a pris énormément de voix au Parti Socialiste pendant ces élections législatives. Et je vais vous dire, l'enjeu là pour le Parti Socialiste, il est assez grave. Est-ce qu'on arrivera encore à constituer un groupe parlementaire, je le rappelle, 15 députés à l'Assemblée nationale? Les projections Harris Interactive, elles donnent 22 à 35 députés socialistes.
Ah, donc ça peut déraper très vite.
Ça peut déraper très vite. Donc, et puis l'autre question qui est plus idéologique et je ne sais pas quel congrès, s'il va être d'Épinay, de Reims, va répondre à cette question, mais c'est quoi l'avenir du Parti Socialiste? Est-ce que c'est, comme on l'avait dit, les pôles se déplacent aux extrêmes, donc est-ce que c'est un Parti Socialiste plus à gauche, allié à la France Insoumise? Est-ce que c'est un Parti Socialiste social-libéral, opposition à La République En Marche? Ces vraies questions, elles restent à se poser pour le Parti Socialiste.
D'accord. À droite, Les Républicains, c'est pareil. Il y aura un après 18 juin et ça veut dire qu'il va falloir repenser à l'avenir. Et il y a déjà des sons discordants à droite de savoir est-ce qu'on va travailler avec la présidence Macron ou est-ce qu'il faut partir dans la ligne de l'opposition. Ça se complique partout, y compris chez Les Républicains / UDI.
Je dirais pour Les Républicains, ça se complique encore plus que pour le PS, parce que pour le PS, le carnage a eu lieu. Pour Les Républicains, il est peut-être en devenir. Mmh. Exactement. Alors, il y a un nombre de duels plus important avec La République En Marche. Et François Baroin et quelques ténors l'ont dit, l'objectif symbolique pour Les Républicains, c'est d'obtenir au moins la barre des 100 députés à l'Assemblée nationale. Et puis après, la même question qu'au Parti Socialiste, c'est comment est-ce qu'on inscrit dans la durée Les Républicains / UDI. Est-ce qu'on veut une opposition frontale au projet d'Emmanuel Macron, un petit peu systématique, donc avec, on peut dire, une tête bicéphale Wauquiez-Ciotti, par exemple? Ou est-ce qu'on veut une opposition constructive, mais qui reste quand même une opposition, avec des personnalités comme Xavier Bertrand, qui reste, j'allais dire, Macron compatible, mais Macron vigilant tout de même. C'est-à-dire, on est dans l'opposition, mais pas dans une opposition systématique. Donc ça, c'est aussi une vraie question idéologique que doit se poser la droite. Et j'allais dire, elle va dépendre aussi du nombre de députés. Est-ce qu'ils arriveront à avoir un groupe assez important de députés à l'Assemblée nationale pour être une opposition, justement, crédible? Ou finalement, la droite va aussi se réduire à peau de chagrin après sélection? Et je rajouterai même un élément. La question, elle va aussi pour l'UDI. C'est-à-dire, que va devenir l'UDI, qui était un peu une boussole de la vie politique française et qui pouvait s'allier, non pas avec le plus offrant, mais avec par projet? Qu'est-ce qu'ils vont devenir, l'UDI? Est-ce que ça va rester un groupe indépendant dans une opposition à Emmanuel Macron, mais plutôt aligné sur les positions des Républicains? Est-ce qu'ils vont rejoindre la grande famille centriste, libérale, pro-européenne du mouvement En Marche, du parti pardon politique? Donc la question se pose même au sein de la coalition de droite, de la future coalition de droite à l'Assemblée nationale.
Et est-ce que ça n'a pas été vraiment la force de La République En Marche de mettre un peu tout ça dans les coins, d'aliéner un peu les autres et de les forcer aussi à probablement avoir une opposition constructive et non pas forcément une opposition frontale, que ce soit Parti Socialiste ou La République En Marche, et de laisser l'opposition frontale aux extrêmes comme la France Insoumise et le Front National? Est-ce que ça n'a pas été la force aussi de jeu de La République En Marche de ça?
La force de la République En Marche et d'Emmanuel Macron, effectivement, c'est d'avoir créé une dynamique non partisane, ou en tout cas non classiquement partisane pour ces élections-là. C'est-à-dire, je peux réunir en mon sein des personnalités de gauche, des personnalités de droite, des personnalités de la société civile. Et effectivement, il a plus siphonné à gauche, mais il a aussi siphonné à droite, Emmanuel Macron. Ce qui amène quand même des situations un peu aussi compliquées des fois. Je pense par exemple au 18e arrondissement à Paris, où deux personnalités, Pierre-Yves Bournazel et Myriam El Khomri, ancienne ministre du gouvernement, vont s'affronter. Un est soutenu par le Premier ministre, l'autre est soutenu par le président de la République. Les deux se réclament de la majorité présidentielle. Donc il faudra aussi pour Emmanuel Macron, à l'issue de ces élections législatives, un petit peu clarifier la position qui est dans une majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, qui est dans une opposition, ce qui ne veut pas dire que l'opposition va s'opposer systématiquement, mais en tout cas, il faut qu'il donne cette impression et cette vitalité nécessaire à la vie politique française d'avoir une majorité et une opposition. Et je rajouterai, je terminerai cette analyse aussi sur les groupes à l'Assemblée par le MoDem. La question va se poser aussi pour le MoDem, parce que qu'est-ce qui va advenir du MoDem après ces élections législatives ? Est-ce qu'Emmanuel Macron va avoir une majorité suffisante sans avoir besoin du MoDem ? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire des affaires qualifiées, des assistants parlementaires du MoDem ? Parce que clairement, quand vous avez 92% des sympathisants La République En Marche, 85% des sympathisants Les Républicains qui sont favorables au projet de loi sur la moralisation de la vie politique, on ne peut pas garder des affaires Ferrand, Bayrou, ad vitam aeternam. Donc il va falloir aussi qu'Emmanuel Macron, une fois que le petit nuage des élections législatives et des résultats est passé, se positionne clairement en disant on garde ses personnalités, on ne les garde pas, le MoDem s'alliera à la majorité présidentielle, ne s'alliera pas, aura un groupe indépendant par indépendant. Voilà. Donc, j'allais dire, même en son sein, il faudra qu'il résolve certaines questions et certaines problématiques pour pouvoir gouverner sereinement.
D'accord. Là, on va conclure cette analyse avec la circonscription qui nous intéresse, la 11e circonscription. Un duel qu'on attendait, il est là, La République En Marche contre une droite Mariani, Les Républicains, UDI et puis un peu ce qu'il y a d'autre à droite. On peut s'attendre à quoi ? Parce que la vague La République En Marche a eu lieu au premier tour. Est-ce qu'on peut s'attendre à ça encore, voire même plus au deuxième tour ? Ou est-ce qu'on a vraiment la grosse inconnue ?
La seule chance pour les partis arrivés un peu loin derrière, en seconde position, c'est de mobiliser fortement, au vu du taux important d'abstention, de mobiliser fortement pour ce second tour des élections législatives. Je vais vous dire, quand on a une circonscription avec près d'une cinquantaine de pays différents, ça devient compliqué de mobiliser partout. Je ne suis pas devin, mais la tâche qui incombe à Thierry Marigny est quand même assez compliquée, de mobiliser fortement dans de nombreux pays. Et puis, La République En Marche, dans cette 11e circonscription des Français et l'étranger, mais dans toutes les circonscriptions des Français et l'étranger, est arrivée avec une avance assez confortable. Et je pense que les circonscriptions des Français de l'étranger suivront un petit peu les résultats des circonscriptions nationales.
Mais d'accord.
Attendons le verdict, c'est le deuxième tour.
Des urnes. Merci Nathanaël.
Merci beaucoup Christophe.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.